Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape, lâchez Laurent Belay.
Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
voiture. Zoulou, peut-être.
Je regarde bien Alex Zoulou.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, dimanche 13 septembre, on va parler de la 15e étape du Tour de France, Lyon, Grand Colombier. Avec moi pour en parler Charles, bonsoir Charles.
Salut Benjamin, j'avais pas bien mon micro, bonsoir à tous.
Pas de problème, et également Greg, bonsoir Greg.
Et bonsoir à tous.
Alors une étape où il s'est passé quelques trucs quand même, hein, même si on va revenir ensuite sur ce qu'on en a pensé, puisqu'on a eu l'abandon de Sergio Higuita, qui a lancé un grand débat sur les mouvements latéraux chez les coureurs du peloton. On a eu une belle échappée de Pierre Roland avec Geichke, Gogol, il y avait Errada, il y avait Trentin, il y avait le Danois, il y avait Bonifacio, il y en avait sans doute quelques autres que j'oublie. Et puis c'était une étape que les Jumbo-Visma voulaient apparemment absolument, puisqu'ils ont roulé derrière, ils ont roulé et roulé encore. Ce qui a fait une sélection, tout d'abord parmi les placés au général, Richard Carapaz qui prend la bagatelle de 26-27 minutes aujourd'hui. Et puis ensuite au Grand Colombier, mais d'abord dans les placés au général, c'est Guillaume Martin qui a eu un souci technique et qu'il a véritablement payé. Mais surtout Nairo Quintana et encore plus surprenant sans doute, Egan Bernal. Ensuite, mais forcément, ce qui a fait parler, c'est qu'au-delà de la force de la Jumbo, c'est qu'ils sont 12 à se disputer la victoire au sprint. Mais ce n'est pas les teams Jumbo-Visma qui l'emportent, puisque c'est Tadej Pogacar qui l'emporte devant Roglic. Et puis Richie Porte qui continue à étonner après cette longue introduction. Greg, qu'est-ce que tu as pensé de cette étape?
Ben, un peu déçu quand même que, enfin, comme les présentes étapes de, enfin, comme d'autres étapes de montagne, ça se termine par un sprint entre les quelques coureurs. Un peu déçu parce qu'on retrouve un train-train. Là, c'est le train jaune cette année qui mène tout ce petit beau monde jusqu'en haut pour un sprint de 200-300 mètres. Donc, c'est vrai que malgré un parcours alléchant, moi j'ai trouvé cette étape décevante et j'en attendais plus. Hein. Il n'y a qu'une seule attaque chez les favoris, c'est une petite attaque de Damietz. Donc pour moi, voilà, j'ai trouvé l'étape vraiment décevante.
Charles, toi, tu as un avis un peu différent.
Ouais, moi, j'ai pas forcément été déçu, mais parce que j'attendais pas non plus autre chose que ça. Dans le sens où je pense qu'il faut le dire, le Grand Colombier, c'est une montée difficile, mais c'est une montée assez atypique puisque la fin de l'ascension, c'est là où il y a les pentes les plus faciles. Donc, sachant qu'on avait deux mecs de la Jumbo-Visma, c'était Kuss et Dumoulin, c'est très difficile d'attaquer parce qu'on fera forcément moins de différence sur des pentes à 5-6%. Donc, je ne suis pas étonné au final, vu la configuration de la montée, qu'on ait eu cette dizaine ou cette douzaine de coureurs qui soient arrivés ensemble pour la gagne et qu'il y ait très peu d'écart. Et concernant le scénario, mais le déroulé, moi j'ai trouvé ça plutôt plaisant dans le sens où il y a eu des surprises, notamment cette défaillance énorme d'Egan Bernal qui perd aujourd'hui toute chance de remporter le Tour de France puisqu'il finit à plus de 7 minutes. Un top 10 sera là aussi compliqué, et plus que la faillite d'ailleurs de Bernal, c'est la faillite du collectif Ineos qui déçoit encore une fois, et on est bien loin de ces années Sky où ils étaient largement au-dessus du lot. Donc ouais, pas forcément déçu. Bon, moi, je ne vais pas dire non plus et mentir pour dire que c'était la plus belle étape qu'on ait jamais vue sur le Tour de France. Loin de là, bien entendu, loin de là. Mais non, une étape normale du Tour de France en montagne, en fait, je trouve.
Ouais, on se fait chier, en fait.
Ouais, ouais, voilà. Mais c'est peut-être parce que j'ai pris l'habitude qu'on se sent comme ça, quand même.
Mais cette étape est atypique parce que dans les Pyrénées, c'était très sympa. C'était également très sympa hier, hein. On l'a suffisamment dit, mais aujourd'hui, moi, je me suis fait chier. Alors, j'étais très content de l'échappée de Pierre Roland, de Gogol, de... Je lis rapidement Gogol parce que je ne sais pas comment ça se prononce, en fait.
Ouais, c'est comme ça. Mais Pierre Roland, tu vois, Benjamin, moi, je suis un peu déçu parce que on sentait, tu vois, quand tu vois le groupe qui sort, tu te dis c'est le plus fort dans l'échappée.
Ah oui.
Oh, bah, et finalement, bon, je vais être franchouillard, hein, vous n'avez pas l'habitude que je le fasse, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais là, je me suis dit, c'est quand même con. Tu vois, Pierre Roland, il a cette opportunité, la Jumbo ouais. laisse pas trop partir. Et
pour l'équipe, ça aurait été le conte de fées, là. Hein. Il prenait le maillot à poids.
Pas du tout partir.
Il prenait le maillot à poids. Puis en plus, il termine qu'à 7 minutes 20 de Tadej Pogačar. Et en plus, en ralentissant un peu, hein, il aurait pu finir à 3-4 minutes. Mais oui, c'est dommage parce que pour faire ce petit coup de cœur cocorico, entre guillemets, Pierre Roland, 3 minutes de plus au pied du Grand Colombier, je pense qu'il remportait l'étape. Quoi.
Je ne sais pas, parce que...
5.
Encore une fois, c'est... Ouais,
5, allez, 5 peut-être, pour être plus...
Mais bon, ça n'a pas été le cas. Non, moi, j'ai vraiment pas aimé. C'est un peu comme quand il y a trop de préliminaires. Hein. On attendait, et puis il n'y a rien qui est sorti, quoi. Hormis Adam Yates, bon, c'est pas lui qu'on attendait le plus. C'est bon, Adam Yates arrive à sortir, il tient un peu en tête, et quand il sait reprendre, il arrive à suivre les roues. C'est que, me dites pas qu'il y avait 12 coureurs qui étaient à bloc, surtout quand on voit le sprint final. Alors, certes, peut-être il y a un souci avec le type d'adversaire qu'ont les Jumbo-Visma. Loin de moi l'idée de critiquer hein, ces adversaires. Je parle plus de leur profil, par exemple Richie Porte, qui est très fort. Qui est un peu dans le type de Roglic, c'est-à-dire sprinter de montagne. Il a un très très gros punch et je comprends tout à fait qu'il vise la victoire d'étape et puis lui qui vise le podium, et c'est pas lui qui a intérêt à déclencher la bagarre. Hein. Il vaut mieux que ça explose par l'arrière par rapport au coureur qu'il a devant lui au classement général. D'ailleurs, bon, il prend quelques secondes, mais je le comprends. Le déroulé, je peux pas accepter. En fait, le spectacle qu'on a eu, c'est les coureurs qui n'étaient pas au niveau.
C'est ça.
Mais c'est ça, en fait, pour moi, il y a un espèce de miroir déformant parce qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de collectif qui est au niveau de la Jumbo-Visma. Si on avait une Team Ineos qui était vraiment à 100% de sa forme, parce qu'il faut quand même le rappeler, il y a Richard Carapaz, vainqueur sortant du Tour d'Italie dans l'effectif. Pavel Sivakov, malheureusement, il chute, mais il a été impressionnant lors de la reprise. Et puis c'est un gars qui a été capable de faire top 10 du Giro, qui a remporté le Tour de Pologne. Et ces gars-là, ils sont malheureusement pas au niveau escompté. Et Kiato, il est un peu juste. Et le reste de l'effectif, il n'est pas non plus au niveau. On rappelle aussi que Thomas et Froome devaient être au départ du Tour de France. Et finalement, ils sont absents. Froome, parce qu'il n'a pas le niveau pour être performant sur la grande boucle. Mais Geraint Thomas, parce qu'il a choisi qu'il ne voulait pas rouler pour Egan Bernal. On voit que là, finalement, sur Tirreno, il a largement le niveau. Et il aurait été très, très précieux au collectif Ineos, je pense. Enfin, pour le collectif Ineos, je pense.
Ouais. Après... Il y a une chose qui peut décourager. Alors, il y a une équipe quand même qui était bien représentée dans ce groupe, c'était la Bahreïn. Et je pense qu'ils pouvaient être capables sans doute d'appuyer sur quelques kilomètres un gros relais pour lancer Landa. Mais je pense que Landa, par contre, lui, n'était pas forcément à bloc. Hein. On rappelle Pello Bilbao qui termine 11e de l'étape à 24 secondes, donc il était dans le sprint final. Et également... Damiano Caruso qui finit à 2 minutes. Non, ce qui peut poser problème aux adversaires, à ses coureurs placés au général, ou même à ses grimpeurs, parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'attaque de grimpeurs dans les ascensions précédentes, c'est la force de la Jumbo-Visma. Force peut-être relative, puisque au final, quand même, quand ça accélère, il n'y a pas forcément tout ça, mais... Mais il y a quelques trucs qui peuvent déranger, alors je vais commencer à parler, puisque je fais de belles sorties sur les Sky en 2018, dans les Alpes. Moi, il y a un coureur qui m'espante, qui m'étonne, pour rester correct, c'est Wout van Aert. Alors j'entends, Charles, quand tu dis qu'il n'a pas la saison de cyclocross dans les jambes, qu'il n'a pas toutes les classiques dans les jambes, mais c'est un gars qui, depuis... Strade Bianche, oui, écrase la concurrence, qui fait un poids qui est quand même supérieur à tous les gars qui accompagnent, puisque je crois qu'il était annoncé à 77 kg dans les Strade Bianche, donc on va dire qu'il a perdu 2-3 kg, 74 kg, donc il doit rendre sans doute 14 kg à quasiment tout le monde sur le groupe de tête. On est sur des pourcentages aujourd'hui qui sont à plus de 10-12%. Je suis étonné quand même qu'il soit encore là après avoir gagné deux sprints. C'est pas le gars qui se relève tout le temps. Hier, il était encore là dans le final à Lyon. Je m'étonne de voir un tel coureur. Je pense que je suis pas le seul vu les réseaux sociaux, tout ça. Alors, je l'entends très bien que c'est un monstre physique, mais quand même, je sais pas. Est-ce que je suis le seul, messieurs, à trouver ça peut-être trop étonnant?
C'est étonnant aussi, parce qu'on a l'impression, en regardant la montée, que c'est lui qui a fait vraiment mal aux autres. Enfin, de cours de jumbo, j'ai pas trouvé que le relais de Bennett soit si fou que ça, ou même le relais du Moulin. Oui. Celui que j'ai trouvé aussi impressionnant, je trouve le relais de Van Aert, c'est lui qui fait lâcher le plus de monde. Alors, ils auraient peut-être sauté quand même, hein, mais j'ai trouvé quand même son relais impressionnant. Moi, je ne m'attendais pas à le voir dans cette position, faire le pied du Grand Colombier comme il l'a fait lui.
Mais il est impressionnant, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Benjamin, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a des opinions un peu différentes par rapport à ça. Sûr. Et c'est ça qui rend le débat, je trouve, enrichissant. Parce qu'on ne se force pas. Hein. On n'est pas là en train de se dire avant l'émission, ah tiens, toi tu prends ce rôle-là, moi je prends l'autre, etc. On dit vraiment ce qu'on pense sur le sujet. Et moi, je pense comme vous que c'est le facteur X, que la Jumbo-Visma serait vraiment différente, mais très très différente sans Wout Van Aert dans son effectif. Mais tu l'as un peu dit, moi je trouve aussi qu'il a plus de fraîcheur que d'habitude, parce qu'il n'a pas cette saison de cyclocross dans les jambes, puisqu'il a été blessé, on le rappelle, très gravement l'an dernier. Il n'a pas non plus les classiques dans les jambes, puisqu'il n'y a pas eu de printemps à cause du Covid, donc il est forcément plus frais que d'habitude. Je trouve aussi qu'on s'étonne un peu trop par rapport à Wout Van Aert, mais parce que pour moi, c'est un coureur du style de Remco Evenepoel. En fait, c'est tellement un monstre physiquement que même sur des terrains qui ne sont pas les siens, enfin le sien entre guillemets, il arrive à performer et il arrive à être très très costaud entre guillemets. Alors, peut-être qu'on puisse s'étonner, hein, je le conçois tout à fait, parce que il y a un traumatisme, on l'a dit avant l'émission, on le dit souvent entre nous chez les fans de vélo, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les années 90, par rapport aux années Armstrong, par rapport à d'autres épisodes dans les années 2010.
C'est 100 ans d'histoire de vélo, hein, quand même.
Oui, parce qu'on ne peut pas faire de diffamation par rapport au Team Sky, parce que de toute façon, il n'y a rien de concret, on va dire, ou d'officiel, ou en tout cas. Mais je comprends ce traumatisme, mais je pense qu'il y a un moment où il faut aussi un petit peu en sortir. Et il faut comprendre, pour moi, et je le dis très simplement, hein, je ne le dis pas pour faire la leçon ou quoi que ce soit aux fans ou autres, mais dans le vélo, il y aura toujours une équipe qui sera plus forte que l'autre, il y aura toujours un coureur qui sera plus forte que l'autre. Aujourd'hui, c'est Van Aert, demain, ce sera peut-être Evenepoel, hier, c'était Bernal, avant, c'était Froome. Et je pense qu'il y a aussi, sans faire offense à qui que ce soit, et je ne parle pas des commissaires, hein, je parle de ce que je lis parfois sur Twitter qui m'exaspère au plus haut point, je pense qu'il y a aussi un énorme miroir déformant, une énorme frustration, pour ne pas dire une rage, parce que les coureurs français ne sont pas au rendez-vous. Je suis sûr et certain que si Thibaut Pinot était ce soir 3e ou 4e du général, il y aurait beaucoup de gens qui auraient une grille de lecture complètement différente de la situation. Et là, on ne sortirait pas le spectre du dopage de l'armoire. Et ça, je pense qu'il faudrait être conscient. Ça
veut pas dire qu'il faudrait être non plus... Je ne sais pas si sur le spectre du dopage, c'est possible.
Mais je ne parle pas de nous, mais je parle de ce qu'on lit des fois.
Non, mais c'est plus, par exemple, sur une étape, on s'est fait chier tout ça. C'est sûr qu'il y aurait eu 2-3 Français dans le
groupe. Ah oui, là, je suis d'accord avec ça. Mais
l'étape n'aurait pas été excitante, mais non. Par contre, excuse-moi, cher, je vais répondre un peu sur le chat, là, parce que je vois qu'on vient me titiller, notamment Cédric, qui parle d'Alaphilippe l'an dernier. Mais bon, Alaphilippe l'an dernier a quand même eu. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais niveau palmarès par rapport à Van Aert, il est quand même largement au-dessus. Et puis, il ne sortait pas les premières perfs de montagne comme ça de sa vie, hein. On l'avait déjà vu sur des Dauphinés notamment, à faire de gros numéros. Puis,
il me semble qu'on était aussi étonnés. Enfin, moi, j'étais assez étonné.
On avait fait, d'ailleurs, c'est moi qui l'avais fait ce pamphlet les 5 premières minutes de l'émission du Tourmalet. Parce qu'on n'était pas d'accord, il y a eu quelques soucis dans les coulisses des commissaires. J'ai parlé pendant 5 minutes des doutes qu'on avait sur la Philippe. Donc, venez pas me sortir qu'à la Philippe, patati patata, alors qu'on en a parlé également. L'an dernier, un des termes beaucoup plus
suspect
que Wout Van Aert. Je suis désolé, Wout Van Aert, jusqu'alors, il ne l'avait pas non plus. Non, pour moi, Alaphilippe l'an dernier, à montagne.
Bah après, bon, on ne va pas rester trop sur Alaphilippe, mais c'est un monstre. Hein, ça, on est d'accord là-dessus. Après, on n'est peut-être pas tous d'accord sur pourquoi c'est un monstre, en fait. C'est peut-être ça, là.
Le ouais, truc, après t'as le problème des cétones, mais à Philippe, on sait que la De Koninck les utilise aussi, donc sur ce.
Oui,
sur
et puis cétone, c'est pas le PO, c'est pas les transfusions.
Non, mais ça, c'est un petit truc, mais c'est pas reconnu comme produit dopant. Donc après, voilà, t'as ceux qui veulent pas les utiliser.
Enfin, je dis pas ça pour toi, mais des fois, après, on s'intéresse pas tous, et je comprends que sur le chat ou sur les réseaux, parfois, on ne sache pas trop, mais pour essayer d'expliquer aux gens quand même un minimum. Quand on parle de cétone, c'est pas un produit miracle. Faut pas croire que c'est ça qui fait gagner un Tour de France. C'est pas les transfusions sanguines des années un peu obscures. C'est pas la prise de PO où on arrivait à des taux d'hématocrite de fou furieux. C'est pas du tout ça. Au mieux, c'est un complément. Et d'ailleurs, il me semble que chez Jumbo-Visma, on disait qu'on savait même pas si ça avait un effet. C'était peut-être un côté un peu placebo. Mais il y a peut-être une petite amélioration, mais c'est pas ça qui va transformer un âne en cheval de course. Ça
non, mais Van Aert n'est pas un âne, personne ne le dit. Par contre, pour ceux qui disent les méchants Jumbo sur le chat, tout ça, on va essayer quand même de faire de discuter en amenant des arguments.
Ouais, mais dites-nous sur le chat, c'est très bien, là, je voyais plein de choses.
Non, mais sérieusement, vous découvrez Van Aert? Non, on ne le découvre pas. À ce niveau en montagne, oui. Clairement. Clairement, je rappelle que dès Orsière Merlette, il faisait un relais monumental, mais sur des pourcentages qui, pour moi, lui convenaient mieux. Il gagne à l'Avoir après une journée terrible, il refait des gros numéros dans les Pyrénées, etc. etc. Donc oui, je m'étonne, ça je l'assume complètement. Je m'arrêterai à l'étonnement, on verra dans les Alpes, mais si je le vois dans le col de la Loz à nouveau jusqu'à 10 km du sommet, je serai encore plus étonné. Parce que ça fera 3 semaines, plus je rappelle qu'il est sur le pont depuis. Alain qui dit si Van Aert était français. Je l'attendais celle-là. Non, si Van Aert était français, je pense qu'on dirait les mêmes choses. Peut-être que je le connaîtrais un peu plus parce qu'on a plus d'infos sur les coureurs des équipes françaises, mais rien de plus.
Mais ça serait top, on enchaînerait les monuments d'ailleurs. Je pense que ça serait pas mal.
Avec Alaphilippe, on peut pas non plus.
C'est vrai,
plaindre sur les monuments, plus sur les grands. Mais bon. Changeons de sujet, on va pas rester sur ça, mais il n'y a pas de souci.
Non, mais pour terminer sur les Jumbo, moi je trouve même tactiquement.
Je me suis étonné sur Van Aert, pas sur les Jumbo. Il n'y a que ce que je trouve très fort, mais après.
Mais si on termine sur. Vous avez pensé quoi de leur tactique aujourd'hui? C'est-à-dire de rouler, de ne pas laisser partir l'échappée. Enfin, si l'on laissait quoi 4 minutes à peu près au groupe Roland. Et pour finalement amener. Pas gagner l'étape. Et puis donner, enfin laisser Pogacar grappiller quelques secondes.
Clairement, c'est un débat très intéressant, Greg. Si on prend en compte toute l'étape, il y a un gros raté de la Jumbo-Visma. C'est la première étape où ils roulent comme ça à vouloir reprendre les échappées.
Ils roulent très tôt quand même, c'est même
ils,
pas.
Ils roulent pas très tôt, ils roulent d'entrée en fait.
4 minutes, hein, c'est ça, 4 minutes 15, ouais, c'est je crois, l'écart maximum.
Ça voulait dire qu'il voulait absolument l'étape. D'ailleurs, je me suis demandé à un moment s'il ne voulait pas faire le doublé quand Kuss participe au sprint. Maintenant que Roglic a été battu, est-ce qu'il était là en réserve si Roglic était moins bien? Mais clairement, quand tu fais rouler autant et que tu te fais battre sur le final, ça veut quand même dire certaines choses. Qu'en penses-tu, Charles? Est-ce que tu penses que Pogacar, excuse-moi, Greg, je dévie un peu le débat.
Ouais, vas-y.
Est-ce que tu penses que ça montre quand même une certaine faille sur leur leader, Primoz Roglic?
Je pense qu'ils sont clairement moins au point tactiquement que Ineos. D'ailleurs, on se rappelle tous de l'arrêt pipi du DS de la Jumbo qui avait causé des petits remous. Mais je sais pas. Mais je pense que, sincèrement, peut-être que je me gourre, hein, c'est largement possible, mais je ne vois pas Roglic si fort que ça. Je pensais aujourd'hui qu'il serait capable d'attaquer le rythme de la Jumbo dans le final et d'éparpiller un peu ses adversaires à droite à gauche, mais on se rend compte qu'il ne l'a pas attaqué. Et j'étais assez surpris parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas chercher à prendre du temps sur la concurrence. Et je pense que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas. En plus, la journée n'est pas bénéfique, comme vous l'avez dit, puisque c'est Pogacar qui récupère les secondes de bonification. Il y a 10 secondes à chaque arrivée au sommet. Il y a 40 secondes de retard, ça peut aller vite. Hein. On a vu sur le chrono des championnats de Slovénie qu'il était largement au niveau de Roglic, Pogacar. Donc le tour n'est pas joué. Pour moi, c'est vraiment le point positif en fait, de ces 15 jours, c'est que le tour n'est pas joué entre Pogacar et Roglic.
Ça repose uniquement sur Pogacar quand même.
Ah bah clairement.
Oui, alors oui, mais dans les Alpes, selon comment se remettent les Colombiens, ça peut jouer. Alors, on revient sur Pogacar, mais ça peut jouer grandement en faveur de Pogacar.
Ou de Roglic, mais temps, ils vont rouler avec
Pogacar qui attaque. Roglic est en position défensive. Mais si un Bernal décide de mettre le feu, imaginons que Bernal aille mieux en troisième semaine, ça c'était déjà vu, un coureur qui prenne un tir et qui, par l'orgueil, bon bref, sur l'étape de la Loz. Il peut lancer des hostilités, Pogacar peut suivre, et là, on et change.
Les Colombiens vont aider Roglic à revenir.
Ah, je sais pas. Non, mais je parle si Bernal accélère en premier.
Donc, ouais, mais
est-ce qu'on va aller chercher Bernal, sachant qu'il est à 8 minutes au général aussi, je sais pas si...
Après, il y a également un truc sur les Jumbo-Visma et une faille qui malheureusement est peu exploitable cette année de par la configuration des étapes, hormis la dernière alpestre et la force des collectifs adverses qui malheureusement sont décimés par les blessures. Et je me demande si Daniel n'est pas allé au Cameroun pour trouver un sorcier qui maudit tous les adversaires de la Jumbo-Visma.
C'est possible.
Quand même, c'est incroyable. C'est que tactiquement, c'est pas du Nicolas Portal.
Non, clairement, c'est pas du
Nicolas Portal. Ça roule fort, c'est de la T-Mobile en fait.
Ouais, c'est pas du tableau noir, hein. Loin de là. Mais il reste encore une semaine, mine de rien. Ça faut pas se tromper non plus là-dessus, je pense. Et aujourd'hui, on a vu que Bernal était à la rue. Complètement à la rue, même demain, ça peut tomber sur... Enfin, demain, non, hein, mais ça peut tomber sur Roglic, ça peut tomber sur Pogacar, enfin, c'est...
Il semblait malade, hein.
Ouais, alors
moi, j'ai pensé... Il baissait la tête, il regarde la caméra, ce que normalement, tu fais pas, t'es énervé, et il fait, je peux pas, quoi, je suis mal, alors que tu vois Quintana qui se désunit pas, et qui est fixé, il avait un regard sur la roue arrière de Warren Barguil. Il y avait vraiment deux attitudes, donc je pense qu'il y a quand même un souci, plus que Toski, qu'on voit aller à la voiture du médecin.
Oui, carrément. Bon, après, on ne va pas faire une éternité sur Jumbo. Il faut qu'on parle de Pierre Rolland un peu, parce que Noé, là, il n'en peut plus. Ça fait trois fois qu'il pose la question.
Alors, Charles, qu'est-ce que tu as à dire sur Pierre Rolland, toi qui disais qu'il était peut-être fini?
Eh bien.
Je suis salaud quand je te lance des trucs.
Ouais, t'as vu comment tu. Là, c'est salaud. Mais je vais faire mon mea culpa, parce que je me suis vraiment planté sur Pierre Rolland. Je pensais qu'il aurait d'énormes, énormes difficultés à retrouver son niveau, et il fait un super Tour de France. Sincèrement, la victoire aujourd'hui, je l'ai dit au tout début de l'émission, je crois, mais quelques minutes de plus de liberté et il a remporté une étape du Tour de France. Donc franchement, gros coup de chapeau à Pierre Rolland. J'imagine que ça fera plaisir à Noé que je revienne sur mes propos du début de saison.
Mais Pierre Rolland, au-delà des blessures qu'il a traînées ces dernières années, Thomas Vauclair disait que le confinement lui avait vraiment fait du bien. Ça l'avait remis à réapprécier les entraînements de vélo. C'est comme une seconde jeunesse. Et tu vois vraiment qu'il prend du plaisir, qu'il part à l'attaque. Et moi, ça me fait plaisir. C'est un coureur qui m'a fait rêver au début des années 2010. C'était le jeune français qui écrasait tout. Pour moi, son meilleur niveau, ça a sans doute été en 2012 ou peut-être en 2014. 2012 sur un parcours qui l'avantage pas du tout sur le Tour de France. Oui, il fait quand même numéro vers la Toussuire, 2014, le Giro, si je ne me trompe pas, dans les années. J'ai un peu peur de me tromper. Il fait un Giro quatrième, il a l'attaque tous les jours. Et là, presque pour le petit poussé, bon, en fait, finalement, c'est Direct Energy, mais c'est bien, on le voit à l'attaque tout le temps. J'aimerais vraiment, s'il ne gagne pas son étape, qu'il finisse avec le maillot à poids. Parce que déjà pour son équipe, hein, et ce serait formidable, ils sont en attaque tous les jours. Et pourtant, Dieu sait qu'on les a alignés, les classiques, hein, sur ces émissions. Mais là, ils font un super tour. Ils ont Brian Cocard qui souffre du genou, mais qui a fait un super Tour de France. Là, on a Pierre Rolland qui est ultra offensif. Donc vraiment, ça me ferait plaisir pour deux raisons. Mais la première, parce que Pierre Rolland, ce maillot des grimpeurs, il le cherche depuis longtemps. Et puis Pierre Rolland, maillot à poids, même s'il ne gagne pas d'étape, je pense que c'est la certitude d'être invité l'an prochain. Et pour ce qu'il montre sur le Tour de France, je pense qu'il mérite tout simplement d'avoir une nouvelle chance sur un vrai Tour de France qui n'est pas en septembre. Qu'est-ce que tu en penses, Greg, toi, de Pierre Rolland?
Ah ben, c'est vrai qu'il fait plaisir. On a peut-être le retour du Pierre Rolland offensif qui a fait un peu sa popularité. C'est vrai qu'il est très apprécié sur les forums, les réseaux sociaux, etc. Et là, on retrouve le Pierre Rolland offensif, notamment en montagne. C'est vrai, ce que tu as dit, je trouve que c'est très juste. on a l'impression qu'il a retrouvé le plaisir de courir, qui avait peut-être un petit peu disparu il y a quelques années, notamment qu'il est parti dans une équipe étrangère. Et donc voilà, après pour le maillot à poids, moi je suis un peu inquiet parce que je pense que je vois difficilement ce maillot échapper
à
Pogacar ou Roglic.
Ouais.
Ils sont déjà revenus quoi, à 2-3 points à chacun de Cosnefroid. Donc je pense que ça va être très compliqué pour le maillot à poids. Mais après...
Faut être échappé sur les trois étapes des Alpes et scorer à mort.
Après, il faut le dire, voilà, le tour de BNB Hotel Vital Concept est réussi.
Ouais, clairement.
Voilà. Un maillot à poids ou non, moi je pense que ça trop compliqué vu que là il se reduit avec Pogacar et Roglic et c'est quand même pas n'importe quoi.
Ouais, c'est un tour réussi, mais il faut le dire hein, parce qu'on nous reproche parfois de ne pas être objectif ou de vouloir taper sur des équipes, mais c'est pas vrai. Quoi. C'est juste que quand on trouve que c'est pas bon, on le dit tout humblement. Hein. Ça veut pas dire qu'on a raison, mais si on trouve que c'est pas bien ou que c'est pas top, on le dit et quand c'est bien, on le dit également. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Quoi.
D'ailleurs, pour moi, c'est l'équipe invitée qui fait la meilleure performance. Bon, on peut en considérer clairement que deux équipes invitées, puisque je rappelle, Total Direct Energy n'est pas une équipe invitée.
Bah après, Arkea est une équipe invitée, on l'oublie très vite parce qu'il
Arkea est une équipe invitée, mais pour moi, les BNB Vital Concept font une meilleure.
Mais Arkea prend un risque énorme parce qu'elle mise absolument tout sur Nairo Quintana. On a vu aujourd'hui que Nairo Quintana était finalement pas si costaud que ça. Et elle peut finir avec un tour absolument transparent où Nairo Quintana finira entre 9 et 12 au général. Et. Au final, ça fera aussi ça posera aussi un autre souci parce que je vais sortir un peu du sujet, mais c'est pas grave, ça permettra peut-être de clôturer sur cette étape. C'est que Arkea Samsic est à la lutte avec Alpecin Phoenix pour ce fameux classement UCI au niveau des Pro Conti qui donne accès aux trois grands tours l'année prochaine. Et Alpecin revient comme une balle parce qu'il y a des grosses performances. Hein. Van der Poel a gagné aujourd'hui à Tirreno, hier c'était Tim Merlier. Il y a aussi une grosse perf de Mevermersch aujourd'hui en Belgique. Et Arkea a donc besoin de cette première place parce qu'elle veut participer aux trois grands tours l'an prochain. Donc il y a vraiment un
double. Elle a l'équipe pour d'ailleurs.
Elle a l'équipe plus pour et elle a recruté pour. Et si jamais elle n'est pas première de Pro Conti, bon, elle fera le tour, hein, c'est pas le souci, parce que sa place est assurée, mais il n'y aura toujours pas de Volta, il n'y aura peut-être pas de Tour de Catalogne, de Tour de Pays Basque, etc. Quoi.
J'allais rebondir sur Arkea et Alpecin, mais je ne vais pas le faire parce que ça sera le
sujet d'une autre émission. Ça va faire une émission parce que c'est intéressant. C'est okay.
Ouais.
Non, pas Tirreno aussi, on est désolé, hein, parce que Tirreno, la course est vraiment intéressante cette semaine. Il y a des étapes très plaisantes. Simon Yates est toujours leader, il y a le chrono final demain. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. En fait, j'ai une émission tous les soirs et ouais. Ça nous prend pas mal.
Pour terminer sur les équipes, leurs équipiers, pauvre Guillaume Martin, qui est vraiment...
Elle a aussi une équipe qui passe en World Tour et qui devra se renforcer l'an prochain si elle veut exister à ce niveau-là, je pense.
Il a eu Errada qui était parti à l'avant, mais sinon il est seul tout le temps. Il met beaucoup de temps à recevoir son vélo quand il casse le dérailleur. Alors il bouche les 30 secondes, mais tu sais que ça va se payer à un moment ou un autre.
Oui, il se crame. Ouais.
Mais après, c'est logique pour moi parce que Cofidis, ça le construit quand même sur pas grand-chose.
Oui.
Donc
l'an prochain, il va être entendu au tournant pour encadrer Guillaume Martin parce qu'on Guillaume Martin montre qu'il peut jouer à minima le top 10 sur un Tour de France.
En plus, hein. Il a donné des garanties cette année, oui, clairement.
Alors, Théo demande sur le chat quelles équipes sont sous le coup d'une élimination Covid. Si je ne me trompe pas, les
tests,
c'est remis à zéro.
Aucune.
Non, c'est un peu l'école des fans, en fait. Ouais.
Oui, mais bon, si, même si c'est remis à zéro, s'il y a eu transmission des cas Covid, ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'un cas de plus. Attention.
Oui, après on va encore croiser les doigts hein, parce qu'on n'est pas à l'abri.
C'est pas intéressant, hein, franchement. Si on voit un Roglic, un Pogacar ou là, la team Jumbo-Visma. J'en ai parlé. Si Van Aert est contrôlé positif au Covid, ça ne fera pas plaisir.
Bah franchement.
Ah bah ça faut. Ça,
oui. Ça serait dégueulasse. Alors.
J'espère qu'on n'arrivera pas à des raisonnements.
Il y a deux points. Il y a le fait d'être positif, d'affaiblir l'équipe. On se dit, haha, chouette. Non, ça c'est pas comme ça. Par contre, en effet, si un coureur est positif et que ce soit un Français ou un autre, pour répondre aux comiques sur le chat, ben il faut, oui, en effet, le sortir pour ses coéquipiers, mais également pour lui. On ne sait pas ce que peut faire la maladie sur un organisme, tous les organismes
fatigués surtout.
Et clairement, ceux qui se réjouiraient d'une mise hors course de Roglic ou de Pogacar à cause du Covid, déjà, ils n'ont aucun respect, je pense, pour ces gens-là. Et c'est des gens qui n'aimeraient pas le vélo, clairement. Quand tu aimes le vélo, tu ne peux pas te réjouir qu'un mec sorte sur une maladie. Et puis on le rappelle, le coronavirus, on n'est pas médecin, mais c'est quand même 30 000 morts en France. Donc oui. C'est pas à sous-estimer, il peut y avoir des séquelles. C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on est forcément asymptomatique. Donc en plus de ne pas aimer le vélo et de ne pas avoir de respect pour les sportifs, humainement, enfin moi je me poserais des grosses questions si j'étais content qu'un mec sorte à cause de ça. Enfin, je le dis, ça va peut-être faire débat et ça va peut-être pas plaire.
Non, mais t'as raison. Et puis même pour le vélo, dans un sens large, s'il n'y a pas de cas positif, ça montre quand même que la tenue des courses est possible pour les coureurs.
Pour aller rager, il y a PSG-OM ce soir, c'est largement suffisant, je pense. Mais sur le foot, c'est mauvais côté.
Hormis ça, bah écoutez, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de certaines choses, du Tour de France zubeldiesque de Alejandro Valverde.
Henrik Maas,
je pense qu'il va être meilleur dans les Alpes. Donc, je me garderai de... C'est-à-dire, tout ça, on va parler quand même vite fait de l'étape de mardi. La Tour du Pin, Villers-de-Lans, on rentre dans les Alpes par, j'ai presque envie de dire, la petite porte. Hein. C'est pas une grosse étape de montagne, c'est une étape de...
Par le col de Porte, justement.
Mais monsieur, tout est prévu.
Ne parlons pas trop de Richie Porte.
C'est une étape de moyenne montagne, j'ai envie de dire. Hein. Le plus gros col, il fait 11 km à 6,5%. Ça arrive en bosse, puisqu'il y a 2,2 km à 7,9%. Ça va être costaud. Hein. Ça va finir, ça va être un sprint de costaud. Je pense que la victoire sera pour l'échapper.
Ouais, après.
C'est une étape, le début est difficile, contrairement à aujourd'hui. Donc je pense que ça sera une belle échappée qui sera devant.
J'étais persuadé que ça serait le cas l'autre jour et au final, on a eu un sprint. Enfin, c'était pas un sprint puisque c'est, comment il s'appelle, Søren Krag Andersen qui s'est imposé. Mais est-ce qu'on aura un scénario un peu similaire avec une Bora qui cherche à faire quelque chose ou est-ce que je sais pas. Enfin, eh bien, je ne suis trop avancé du coup.
C'est l'heure que vous attendez tous, c'est l'heure des pronostics. C'est l'heure d'encore perdre en crédibilité, messieurs.
Et bah,
encore
2-0,
plus que les US Postal, ouais. Encore plus que les PDM. Il est temps de passer au pronostic pour les commissaires de course, messieurs. Le vainqueur de l'étape, et je pense que le vainqueur de l'étape dira pour chacun si on pense que c'est l'échappée ou les favoris du général qui s'imposeront. Et je vais commencer pour une fois, et je vais dire le même pronostic que j'ai fait pour l'étape d'aujourd'hui. Valentin Madouas, ce qui veut dire que ça sera une échappée pour moi. Charles.
Eh ben moi, je vais dire 2-0 pour l'OM. Tout simplement. je vais me faire chambrer en plus qu'on va prendre une branlée.
Ah bah oui.
Bref, c'est un autre sujet.
Tu vas te prendre la fessée.
Ouais, c'est enregistré en plus, c'est ça qui est con. Je me suis perdu tout seul. Du coup, c'était quoi ta question, Benjamin, pour le prono, le vainqueur?
Oui, deux étapes.
C'est pas facile. Allez, je vais tenter un Greg Van Avermaet.
Et Greg?
Et moi, Alaphilippe en échappé. Ça fait un moment qui tente. Donc,
et pour une fois, il s'est reposé.
Voilà. Donc, je pense que là...
Ben, qui demande sur le forum... désolé, hein, je ne vais pas le revoir de suite. Pino passera-t-il la journée de repos? C'est possible, mais je préférerais personnellement que non. Qu'il repose bien son dos. Il y a le championnat du monde qui arrive. Apparemment, Vauclair serait prêt à le sélectionner.
Oui, puis Pino, il peut gagner à la Volta. Hein. C'est pas un objectif inatteignable, je pense.
Par contre, Pinot ne veut pas faire le Giro. Je pense que, vu son problème au dos...
Non, c'est trop proche.
Je préfère le voir sur la Vuelta.
Il y aura quand même 15 jours de fatigue accumulée. Bon, c'est
celui que j'espère voir sur la Vuelta, c'est Romain Bardet également. Ça voudrait dire que ça va bien mieux.
Ouais, mais il y aura du monde sur la Vuelta, mine de rien. Il y aura Edita, je pense. Il y aura pas mal de coureurs qui sont un peu déçus, là. Et on aura une très belle course.
Parce que j'espère. Par rapport à ce qu'a dit Vincent Lavenue sur Romain Bardet, je suis quand même inquiet pour le coureur... Qui a fini l'étape à 2 minutes 30 des autres favoris. C'était vendredi, si je ne me trompe pas, mais qui a beaucoup souffert derrière. Hein. Ouais. Bon rétablissement à lui, c'est qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je sais qu'il fait débat, ce coureur. Mais voilà. On vous donne rendez-vous. Oui, il y aura Froome également sur la Vuelta, mais ouais. La Vuelta, ça sera pour une autre émission. On vous donne... Pinot, et puis lui à la planche, ouais, mais bon, si c'est pour... pour coincer avec mal de
dos. Ouais, puis sur un chrono, il peut pas gagner en plus. Clairement.
Ouais, tu vois que le dos, enfin, il est bien, hein, il a les jambes. Tu vois dans les deux premiers cols qu'il est bien, et puis d'un coup, bon, ben, le dos ne tient pas. Il fait les étirements, et puis il fait non de la tête à Godu, et il peut rien faire. Ouais. Allez, on va pas continuer l'étape 400 ans parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On vous donne rendez-vous mardi soir, 19h45, avec une étape qu'on espère plus sympathique à suivre. Que celle d'aujourd'hui et peut-être la victoire de Pierre Roland. Là, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, on serait tous contents.
Ouais.
Bonne soirée à tout le monde, bon fin de week-end, bon début de semaine, courage à tous. À mardi, ciao.
Salut tout le monde, allez, au revoir.
Au revoir.